Bienvenue à tous, il est précisément 6h.
Même si c'est un moment de déception, on restera unis et solidaires de toute façon.
Gueule de bois pour les Français au lendemain de la défaite des Bleus contre la Suisse à l'Euro 5-4 au tir au but après un échec de Kylian Mbappé rongé par la culpabilité. Dans ce journal, un nouveau record de chaleur battu au Canada, près de 48 degrés enregistrés près de Vancouver. Les toilettes des gares gratuites pour tous les voyageurs dès l'année prochaine. L'inauguration d'un nouveau siège de la banque JP Morgan à Paris par Emmanuel Macron tout à l'heure. Et puis terminé, la chasse à la glu. Le Conseil d'État met un terme à cette pratique dite ancestrale du sud de la France.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu, alors que le chapeau d'Indiana Jones est mis aux enchères aujourd'hui, oui, son fameux feutre. Mon invité inattendu nous racontera les quelques jours où il a pu côtoyer Harrison Ford et Steven Spielberg. C'était sur le tournage du film et vous allez voir que Indiana Jones, je ne sais pas si vous le saviez, a été en partie tourné en France. Voilà, je l'appelle à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il aura été le seul à avoir manqué son tir au but contre la Suisse. Kylian Mbappé et sa tentative ratée ont donc exclu les Bleus de l'Euro de football au stade des huitièmes de finale. Terrible déception évidemment pour le jeune prodige français qui a d'ailleurs tenu à s'excuser après le match, Cyril Delamorinerie.
Oui, cette nuit, l'inconsolable joueur français a posté un message sur les réseaux sociaux. « Je suis désolé pour ce pénalty », dit-il. « J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. La tristesse est immense après cette élimination. » Le prodige français a décidé de tirer le dernier pénalty, mais il est tombé sur un gardien suisse très inspiré. D'ailleurs, le sélectionneur Didier Deschamps ne lui jette pas la pierre.
Dans le vestiaire, il n'y a pas la faute à l'un plus qu'à l'autre. Évidemment, Kylian assume sa responsabilité, il se sent... coupable, mais il n'a pas à l'être. Même si c'est un moment de déception, on restera unis et solidaires de toute façon.
Plusieurs coéquipiers comme Paul Pogba et Lucas Digne l'ont également réconforté sur le terrain, mais surtout la légende brésilienne Pelé lui a apporté son soutien. Garde la tête haute, Kylian. Demain est le premier jour d'un nouveau voyage. Fin de citation. Kylian Mbappé n'a donc pas marqué de but dans cet Euro, mais le jeune attaquant de 22 ans aura l'occasion de se rattraper.
Cyril Delamorinerie à Bucarest pour Europe 1 et on reviendra sur cette rencontre dans la page des sports juste après ce journal.
Au Canada, c'est du jamais vu. Près de 48 degrés ont été enregistrés à Lytton en Colombie-Britannique. C'est pas très loin de Vancouver.
Oui, nouveau record de température, on vous en parlait hier. La faute à ce dôme de chaleur qui s'est formé au-dessus de l'ouest du pays. Entre 10 à 15 degrés de plus que la normale. Virginie Salmen, quel est ce phénomène et peut-il se produire en France ?
Alors, c'est un phénomène météo qui conjugue de l'air chaud, remonté du sud, du Mexique en l'occurrence, avec des hautes pressions qui emprisonnent cet air chaud et le réchauffent encore jusqu'à atteindre ces températures irrespirables, inédites même sous ces latitudes. Ces dômes de chaleur peuvent également toucher la France, rappelle la prévisionniste de Météo France, Christelle Robert.
On a déjà eu des dômes de chaleur sur la France. Hein. Rappelez-vous, en juin 2019, on connaissait un peu le même type d'épisode, puisque notre record national avait été largement battu avec les 46 degrés qui avaient été mesurés à Vérargues. On peut comparer un peu ces deux événements. Dans le cadre du changement climatique, on prévoit malheureusement des vagues de chaleur qui peuvent être plus intenses, plus longues, plus précoces et plus tardives. Donc oui, on est amené à revoir ce type de situation en France et dans d'autres pays du monde.
Pour les prévisionnistes, tous ces records de chaleur battus de plusieurs degrés, c'est une empreinte du changement climatique et on n'a peut-être pas tout vu. Cette vague de chaleur va durer ces prochains jours et selon eux, de nouveaux records pourraient tomber.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Et nous serons en ligne du Canada tout à l'heure à 6h40 avec le climatologue David Phillips du service météorologique du pays qui est en train de nous donner quelques explications sur ce qui est en train de se jouer à l'ouest du Canada avec ces températures records. On en vient à cette information que vous avez entendue sur Europe 1 hier. Il va y avoir du changement dans les gares françaises.
Avec le retour de la musique déjà, les pianos accessibles à tous vont être réinstallés dès le 1er juillet, dès jeudi donc. Ils avaient été mis de côté depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Et puis une nouveauté à partir de l'année prochaine, les toilettes vont devenir gratuites à condition de présenter un billet valable. Annonce en exclusivité sur Europe 1 de la directrice générale de SNCF Gares et Connexions, Marlène Dolvec, hier après-midi.
Les toilettes seront gratuites, munies d'un billet train à partir de 2022, le temps d'avoir conçu l'ensemble des systèmes qui permettent de le faire. Vous savez, les gares sont en ville et la propreté est extrêmement importante pour nous. Et finalement, entretenir des toilettes au sein d'une ville, ce n'est pas simple. Donc nous sommes passés par des prestataires qui demandent 1 euro à chaque passage. Donc en fait, ceux qui viendront aux toilettes, qui sont des riverains, paieront 1 euro. Mais quand vous aurez un billet de train, ça sera gratuit pour vous.
Marlène Dolvec de SNCF Gare et Connexion, invitée de La France Bouge avec Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. À Lille, les transports en commun seront bientôt gratuits pour les moins de 18 ans. La métropole a voté la gratuité des bus, métro, tram et vélo dès le 1er janvier prochain. La mesure concernera 300 000 mineurs.
Une autre nouveauté pour 2022 et celle-ci concerne le bac.
Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer veut tirer les leçons de ces deux années scolaires bouleversées par la crise sanitaire. Résultat, le bac, nouvelle formule, va encore être modifié avec un renforcement du contrôle continu. Virginie Riva.
L'équilibre du bac reste le même, avec 40% accordé au contrôle continu dans la note du bac et 60% aux épreuves finales. Mais ce qui change, c'est que dans le contrôle continu, seuls compteront les notes obtenues en première et en terminale, soit celles sur les bulletins. Fini les épreuves perlées, les fameuses E3C qui portaient sur le tronc commun, qui n'ont d'ailleurs pu avoir lieu qu'une seule fois avant le Covid. Une décision qui va accroître les inégalités entre élèves pour Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES.
Le contrôle continu, en renforçant la part des évaluations locales, des contrôles locaux, va donner peut-être la perspective d'un bac local, où finalement ce qui comptera plus, c'est l'établissement d'où on vient, l'établissement d'où on a passé le bac, plutôt que le bac en lui-même.
Autre nouveauté, l'enseignement moral et civique sera évalué en tant que tel après cette année marquée par l'assassinat de Samuel Paty. Énorme chantier en cours, les programmes des enseignements de spécialité devraient tous être allégés sans qu'on connaisse encore les détails. Des changements enclenchés dès la rentrée de septembre.
Les explications de Virginie Riva. Encore de nouveaux records de décès quotidiens en Russie, à Moscou et Saint-Pétersbourg, qui doit accueillir le quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et la Suisse vendredi. Près de 300 supporters qui avaient assisté au match contre la Belgique ont été testés positifs au virus.
6h07 sur Europe 1. Après avoir rencontré les patrons des multinationales au sommet Choose France hier, Emmanuel Macron inaugure ce matin les nouveaux bureau de la banque JP Morgan à Paris.
Et le chef de l'État espère bien attirer les banquiers chassés de la Grande-Bretagne par le Brexit, Louis Dragnel.
Oui, un symbole pour mettre en valeur le bilan présidentiel. L'américaine JP Morgan, première banque mondiale, insiste l'Élysée, quitte Londres pour Paris afin d'installer le siège européen de ses activités de marché. Le premier objectif de l'exécutif est d'essayer de montrer que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, l'attractivité financière de la France est plus forte. Le chef de l'État en est très fier. La place financière dont il rêve à Paris commence à voir le jour. Selon l'Élysée, 3000 emplois créés avant la fin de l'année et une estimation de 1000 recrutements supplémentaires en 2022. Le second objectif, montrer qu'après le Brexit, Paris a la capacité de devenir un véritable écosystème, une place financière puissante, mais différente des autres, en misant sur la finance durable et responsable. Sauf qu'Emmanuel Macron le sait, au-delà des discours, les compagnies d'assurance, les banques et les fonds sont les seuls maîtres de leurs investissements.
L'enquête préliminaire qui visait Ségolène Royal pour l'usage des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles est classée sans suite. Le parquet national financier annonce qu'aucune infraction n'a été relevée.
C'est une méthode dite traditionnelle dans le sud-est de la France. La chasse à la glu sera désormais interdite. Le Conseil d'État a rendu sa décision hier.
Cette pratique jugée contraire au droit européen consiste à piéger des oiseaux sur des tiges enduites de colle, technique jugée cruelle par ses opposants, comme Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui se réjouit du verdict du Conseil d'État.
Il a fallu 5 ans quand même pour qu'on obtienne satisfaction. C'est un vrai soulagement pour le combat qu'on a engagé, mais avant tout pour les oiseaux, y compris ceux qui sont protégés. Enfin bon, on est quand même au 21e siècle et on peut faire des prélèvements autrement que par ces pièges non sélectifs et douloureux. Donc on continuera notre combat et on est heureux de cette victoire qu'on peut qualifier d'historique.
Mais pour les défenseurs de cette pratique, l'interdiction de la chasse à la glu ne répond à aucun impératif environnemental. Willy Schrein, président de la Fédération nationale des chasseurs.
Vous avez quelques centaines de personnes qui attrapent quelques milliers d'oiseaux dans un petit coin de la France qui s'appelle la Provence, qui font ça depuis des siècles, sans jamais faire mal à la nature, sans jamais remettre en cause la biodiversité. Et ça, c'est barbare. On vient leur priver de ça juste par pur dogmatisme et parce qu'il y a une vision punitive de l'écologie qui est en train de s'installer dans ce pays et au niveau de la Commission européenne comme on n'a jamais connu.
Des propos recueillis par Diane Berger pour Europe 1.
6h10, c'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Allez, on passe au sport et on revient Aurélien Fleurot sur la défaite des Bleus battus par la Suisse hier soir. Il était presque minuit, hein, au bout d'une cruelle séance de tirs au but.
Et oui, les supporters sont passés par toutes les émotions, crispation, délivrance, déception et au final cette défaite après un score de 3 partout à la fin du temps réglementaire, doublé de Benzema et but de Pogba côté français, mais cela n'a pas suffi. Les champions du monde ne deviendront pas champions d'Europe. Et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.
On avait tout fait pour inverser la tendance après une première mi-temps laborieuse. C'est le foot, il faut l'accepter. Si on s'arrête ce soir, c'est qu'on ne mérite pas plus. On a fait des choses extraordinaires. Ce groupe est uni, solidaire. C'est important ce qu'on s'est dit avec les joueurs aussi dans le vestiaire. On n'a pas tout bien fait, mais on a fait ce qu'il fallait jusqu'à la 80e.
Didier Deschamps avec Cyril de la Morinerie à Bucarest. Les Suisses qui se qualifient pour les quarts de finale d'une compétition majeure, une première depuis 1954. Ils peuvent notamment remercier leur gardien, Yann Sommer, auteur d'une parade décisive donc sur le tir au but de Kylian Mbappé.
Et c'est un euro forcément très contrasté pour l'attaquant du PSG qui était attendu comme l'une des stars de la compétition.
Oui, c'est vrai que l'on va forcément se souvenir de ce tir au but arrêté par le gardien suisse que Mbappé n'a pas marqué en 4 matchs, mais il ne faut surtout pas l'accabler, selon notre consultante Aline Riera.
Kylian Mbappé, voilà, ses statistiques, alors il n'y a pas de but, mais il y a 4 passes décisives quand même, donc là non plus, il n'y a pas tout à jeter. Je rappelle que c'est un joueur de 22 ans, c'est une pépite. Il y a beaucoup de choses qui font que, voilà, il a perdu la confiance, il n'a pas réussi à marquer, il a un petit peu, malheureusement, parfois forcé pour essayer de marquer, forcé la décision, n'a pas toujours fait les bons choix. On a raté des choses, mais ne remettons pas tout sur ce 5e pénalty d'une série où... Voilà, les Suisses ont été très bons, nous ont emmenés où ils voulaient et à un moment donné, on a mené 3-1 et c'est sans doute là où il faut réfléchir pourquoi on n'a pas réussi à garder ce résultat.
Aline Riera avec Roman Hockey. Allez, rendez-vous au Mondial 2022, ça va arriver vite pour Kylian Mbappé, il a largement le temps de se rattraper. En attendant, la Suisse va affronter l'Espagne en quart de finale. Là aussi, match incroyable hier, les Espagnols ont éliminé la Croatie 5-3 après prolongation.
La suite des huitièmes de finale de l'Euro, avec quel programme aujourd'hui?
Alors une très belle affiche à Wembley, l'Angleterre va recevoir l'Allemagne, coup d'envoi 18h et puis à 21h, la Suède va affronter l'Ukraine.
Et on termine avec le tennis, les premiers résultats de Wimbledon.
Et une première surprise, l'élimination du grec Tsitsipas dès le premier tour, après sa finale à Roland-Garros. Le vainqueur à Paris, lui, Novak Djokovic, a laissé filer un set, mais s'est qualifié pour le deuxième tour, tout comme le revenant Andy Murray. Côté français, les matchs de Monfils et de Père ont été suspendus par la nuit. Côté française, 2 défaites pour Ferro et Mladenovic. À suivre aujourd'hui l'entrée en lice de Roger Federer.
Et Roger Federer, dont on se souvient qu'il avait... arrêter Roland-Garros pour se préserver justement pour Wimbledon.
Et donc on va voir ce que ça donne effectivement
dans quel état
à partir d'aujourd'hui.
Il arrive sur le gazon de Wimbledon. Merci à vous Aurélien Fleurot, 6h13. C'est un objet culte qui est mis aux enchères aujourd'hui, le célèbre chapeau, le feutre Traveler d'Indiana Jones, conçu à l'époque sur mesure pour Harrison Ford. C'est celui qui a été porté dans le Temple Maudit, qui est mis aux enchères, estimation entre 150 et 250 000 dollars. Indiana Jones que mon invité inattendu a côtoyé, figurez-vous. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Philippe Tugas et j'ai été figurant dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue aux côtés d'Harrison Ford.
Voilà, figurant Philippe Tugas à l'époque. Parce que vous étiez journaliste à Sud-Ouest, quotidien régional, en 1980, et vous avez en quelque sorte infiltré le tournage d'Indiana Jones, qui se tournait en France pour quelques jours. Vous allez nous raconter ça. A tout de suite sur Europe 1, 6h14.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h16, mon invité inattendu ce matin nous ramène dans l'univers d'Indiana Jones, dont, je le disais, le chapeau est mis aux enchères aujourd'hui. Philippe Tugas, vous avez donc été figurant sur le tournage des Aventuriers de l'Arche Perdue avec Harrison Ford. À l'époque, vous étiez journaliste à Sud-Ouest et vous avez infiltré le tournage, parce qu'il faut dire que c'était un tournage extrêmement secret.
Oui, ça se passait à La Rochelle. J'étais journaliste à l'agence de sud-ouest de La Rochelle, et j'ai connu un assistant français de Lost Ark Productions, donc les productions de l'Arche perdue, qui m'a permis d'infiltrer le tournage, qui a duré 4 jours, donc avec toute l'équipe des aventuriers de l'Arche perdue, Lucas, Spielberg, Harrison Ford, Karen Allen et puis Paul Freeman.
Comme journaliste, c'était le seul moyen d'approcher le tournage, finalement, c'était de
Absolument.
Se faire passer pour un figurant.
C'était interdit de relater le tournage au jour le jour. D'ailleurs, nous n'avions pas la possibilité de rendre compte au quotidien de ce qui se passait, sans quoi nous n'aurions pas pu travailler.
Et au final, vous l'avez écrit quand même, vous l'avez raconté quand même, vous l'avez publié, mais, votre article ?
Oui, mais quelques jours après.
Quelles sont les scènes du film ? Alors moi, je ne savais pas que les aventuriers de l'Arche perdue avaient été tournés en partie en France. Quelles sont les scènes du film qui sont tournées à La Rochelle ? Et vous, qu'est-ce que vous faisiez ? Quel personnage vous jouiez comme figurant ?
Un peu tout. J'ai dû être soldat allemand. Et puis, j'ai même, à un moment, je crois, si je me souviens bien, j'ai même pris la place de Paul Freeman. Vous savez, le monsieur Belloc, le méchant français du film.
Et donc là, on est dans une base, c'est dans une base sous-marine de La Rochelle, c'est ça que ces scènes sont tournées.
On est à la base sous-marine de La Rochelle, qui figure une grotte égyptienne.
D'accord.
Alors, il y avait du stuc qui avait été mis à l'entrée de la bouche de la base sous-marine, et puis pour figurer des rochers déchiquetés, voilà. Et puis, il y avait un sous-marin qui était là, un sous-marin qui a servi également au tournage d'un film qui s'appelait Das Boot, sur un sous-marin allemand. Voilà.
Alors, quel souvenir vous avez de ce tournage d'Indiana Jones ? Quelles anecdotes vous gardez en tête aujourd'hui ?
Je peux souvenir. Hein. D'abord, vous savez, d'abord le recrutement, et puis nous étions une cinquantaine à peu près de personnes hein, qui ont été recrutées. Beaucoup de gens qui cherchaient un emploi, hein, des gens de la NPE qui cherchaient un emploi. Donc, puis des étudiants aussi. Et
Harrison Ford, avec son chapeau, vous l'avez croisé ?
Oui, on l'a beaucoup vu s'exercer avec son fouet. Hein. Il passait beaucoup de temps à s'exercer avec son fouet. On était sûr qu'il saurait le manier lorsqu'il faudrait qu'il y ait une prise de vue avec son fouet.
Et donc son fameux chapeau, son feutre
d'aventurier,
qui est mis aux enchères aujourd'hui. C'est un objet absolument mythique. 150 à 250 000 euros hein, d'estimation. Vous seriez capable de mettre ce prix pour acheter ce genre d'objet de collection ?
Ah non. Non, personnellement, non. Non, même si j'ai porté à un moment un chapeau, parce que j'ai retrouvé une photo où je portais sur le Bantu Wind, parce qu'il y a une scène qui est tournée sur un cargo qui s'appelait le Bantu Wind, entre l'île de La Rochelle, l'île d'Oléron et l'île de Ré. Il y a une scène de piratage qui est tourné à ce moment-là. Vous dire quand même que nous ne savions absolument pas quel était le scénario, à quoi correspondait tout
ah
ça.
Oui.
Nous
oui.
tournions.
Alors il y avait quand même malgré tout, il y avait quand même du beau monde entre Spielberg, George Lucas, Harrison Ford. Vous imaginiez assister à la naissance d'une telle saga culte avec ce personnage ?
Absolument pas. On savait absolument pas. Moi, j'avais réussi à glaner quelques infos. Je savais qu'il y avait une histoire, l'Arche perdue. Je savais à peu près de quoi il ressortait. Enfin, mais quel était le fond, la trame de l'histoire ? Aucune idée. Et puis tout ça, vous savez, le reste du film s'est tourné à Honolulu. D'autres séquences se sont tournées à Hawaï, je crois. Enfin, bon, ça, je veux dire, La Rochelle, ça a été une toute petite... Une toute petite partie du tournage, quoi.
Philippe Fugas, donc figurant, ancien figurant dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Merci beaucoup d'être venu ce matin partager ces quelques souvenirs avec nous.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et dans l'actualité ce matin, la politique. Jean Castex va rester à Matignon après les résultats des élections régionales. Emmanuel Macron le confirme dans une interview donnée au magazine Elle. Il ne changera pas de Premier ministre. Après 2 ans de travaux, le dénouement pour le projet de loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Le Parlement doit adopter le texte définitivement aujourd'hui. Et puis la Cour d'appel de Paris confirme la mise en examen d'Abdelhakim Sefrioui pour complicité d'assassinat de Samuel Paty. Ce militant islamiste est accusé d'avoir ciblé le professeur via une vidéo avant son assassinat par un réfugié tchétchène. C'était au mois d'octobre dernier. Une comédie musicale signée Martin Scorsese dans la partition d'Omblin Roche. New York, New York, à suivre tout de suite.
Europe 1.
6h24 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche et une histoire ce matin, Omblin, qui se joue il y a 44 ans. Et juin 1977, Martin Scorsese se lance dans un nouvel exercice, celui de la comédie musicale. C'est un risque pour le cinéaste,
oui.
Mais il est chez lui entre Central Park et la 5e Avenue et il déclare son amour à la ville qui a forgé son identité, New York.
New York, c'est la ville définitive, dit-il. Il n'y a pas mieux sur Terre. Quand j'en suis éloigné, j'ai l'impression de rater quelque chose. Martin Scorsese quitte cependant les rues malfamées de la Grosse Pomme, arpentées par la voiture jaune de son film précédent Taxi Driver, et rend hommage aux comédies musicales des années 40, made in Hollywood, sur une musique bebop et swing. You are my lucky star.
Martin Scorsese installe le tournage de New York, New York dans les vieux studios de la MGM et il propose à Liza Minnelli d'interpréter le rôle de Francine.
Francine Evans, la chanteuse talentueuse qui ne laisse échapper aucune fausse note, amoureuse de Jimmy Doyle, un saxophoniste de jazz, maître de l'impro, incarné par l'acteur fétiche de Martin Scorsese, Robert De Niro. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tous les deux vivent une histoire passionnée, connaissent la gloire ensemble, mais ce qui semblait être inévitable finit par se produire. Leur différence va les mener jusqu'à leur perte, la jalousie va les consumer. La réussite musicale de Francine Evans devient un moyen de combler le vide émotionnel laissé par Jimmy. Little moon, you saw me standing
alone. Au moment du tournage en 1976, le réalisateur est porté par ses succès récents.
Le sacre de Taxi Driver sera autant une chance qu'une malédiction pour lui. La cocaïne blanchit les collines de Los Angeles et on en consomme autant que les coupes de champagne. Et donc au moment où Martin Scorsese s'attaque à New York, New York, il nage en plein chaos, ravagé par la drogue. Le tournage est désorganisé, le cinéaste se montre confus, irascible, déprimé. Il s'entretient régulièrement avec sa psy. Pendant que les figurants en costume patientent, sa liaison avec Liza Minnelli va précipiter la fin de son mariage.
Et puis visiblement épuisé par la création de New York, New York, Martin Scorsese va disparaître dans la nature avant la fin de la production.
Voilà, il finira par être hospitalisé et bénéficiera du soutien inébranlable de son ami Robert De Niro. Quant au film, eh bien, le public reste perplexe face à une telle création. Les happy ends ne sont plus vraiment vendeurs. L'échec de New York, New York est cuisant. Sorti au même moment que le rouleau compresseur Star Wars, l'histoire d'amour tragique entre Francine et Jimmy ne fait pas le poids à côté des héros Jedi.
Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là.
Ah non, bien heureusement, grâce au succès de Raging Bull avec encore Robert De Niro et grâce à la reprise de la chanson Thème par Frank Sinatra, Martin Scorsese ressort New York, New York des cartons, le restaure, l'allonge en 1980. Le film se fait une place dans l'histoire du cinéma. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake
little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
Qui ne dort jamais. New York, New York, Liza Minnelli.
Oui.
Sur Europe 1977.
Oui, c'est donc le thème du film de Martin Scorsese, avec aussi bien sûr le grand ami, la muse de Martin Scorsese, Robert De Niro.
Ombline Roche pour la partition. Merci, à demain.
Merci, à demain.
Et Laurent Cabrol pour cette météo encore agitée aujourd'hui. Oui.
Malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles. Alors, actuellement, les pluies se situent sur un axe qui va grosso modo du Massif central, qui remonte vers le centre, vers l'Orléanais. Vous voyez, c'est une sorte de ligne toute droite. Il y a d'autres pluies aussi sur le littoral atlantique. Bon, ces pluies sont, je vais dire, presque des pluies calmes. Et puis ensuite, dans la journée, eh bien, l'ensemble des régions de France, quasiment l'ensemble, je donnerai quelques exceptions, seront sous l'emprise des averses. Des éclaircies, bien sûr, des averses et surtout d'orages dangereux. Voilà. Donc, c'est une journée de toutes les précautions, des journées dont il faut vraiment se méfier. Et les secteurs qui sont un peu à l'abri sont l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Béarn, où là, nous n'aurons que des ondées. Que des ondées, pratiquement, et pas beaucoup d'ailleurs. Et puis, le bassin méditerranéen, les Cévennes, la basse vallée du Rhône et les Alpes sont des contrées également un peu à l'abri du mauvais temps. Mais partout ailleurs, je ne ferai pas dans le détail, ce sera un temps très agité avec des averses en tout genre. Les températures cet après-midi, 18 à Cherbourg, 19 à Nevers, 20 degrés à Paris, à Clermont-Ferrand, Brest et Deauville. Vous voyez que c'est vraiment très bas pour la saison. Hein. 21 à Dijon, en Bordeaux et Lille, Sedan, Nancy, Toulouse, Colmar entre 22 et 23, 26 à Lyon, 30 à Marseille, 31 à Nice. C'est-à-dire que la moyenne nationale se situe entre 20 et 23 degrés, ce qui est vraiment pas payé, hein, comme disent les turfistes.
Pour un 29 juin, on vous retrouve juste avant 7h, Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
On finit sur les rotules, sous le soleil, sous la chaleur, il y a eu des blessures. On a gagné des batailles sur les trois premiers matchs. On y a laissé de l'énergie aussi.
Hugo Lloris à bout après 2 heures de match et une cruelle séance de tirs au but. La France éliminée en 8e de finale de l'Euro. Les Bleus, venus favoris, tombent de haut face à la Suisse qui vit un moment historique. Y aura-t-il une réforme des retraites express adoptée avant la présidentielle? Les syndicats, mais aussi le patronat, sont contre ce calendrier. Et puis la suite du procès de l'affaire Troadec, 4 morts à Orvault en 2017 et l'interrogatoire du couple mis en cause hier.
Après le journal, le thermomètre a dépassé, écoutez bien, les 47 degrés. Que se passe-t-il à l'ouest du Canada? Comment expliquer ces records de chaleur? Je serai en ligne avec le climatologue canadien David Phillips depuis Toronto. Il est mon invité dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avant même d'aborder les sujets qui fâchent, la faillite totale de l'équipe de France de football, partons tout de suite en Suisse qui a vécu une soirée historique en battant les Bleus. Prenons simplement deux statistiques. 29 ans que le pays ne nous avait pas battus en football et 67 ans que cette équipe ne s'était pas qualifiée lors d'un match à élimination directe. Il y avait donc de quoi faire la fête comme ici à Genève.
Que la Suisse allait gagner.
Et du coup, c'est encore plus beau parce qu'on n'y croyait pas. Du coup, c'est encore mieux. C'est parfait.
C'est incroyable. Hein. Franchement, on n'y croyait pas. Les Français, ils nous chambraient. Et franchement, aujourd'hui, on en a fait quelque chose. C'est incroyable.
Je suis heureux pour la première fois que la Suisse, elle a remporté ce match magnifiquement bien.
Ça, c'est vrai.
Ouais, cette ambiance, putain.
Bah, magnifique, en plus au pénalty.
Il y a tout eu dans ce match. Incroyable.
Voilà, magnifiquement bien, atmosphère des grands soirs pour eux, à Genève, capté par l'envoyé spécial d'Europe 1, Simon Rubin.
Voilà pour la fête côté suisse, mais revenons à ce cauchemar côté bleu sur la pelouse de Bucarest. Les Bleus battus au terme d'un match fou.
Et ils ont été menés, puis Loris a sauvé un pénalty, puis les Français ont marqué 3 buts d'affilée avant de se faire rattraper, de rater leurs occasions en prolongation et de perdre sur un tir au but manqué par Mbappé. Jean-François Pérez, vous étiez au stade hier soir, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. On peut trouver des raisons à cet échec de nos champions du monde ?
Oui, il y a d'abord la fatigue à l'issue d'une saison longue et inédite à cause du Covid. Les Bleus, qui jouent tous dans des grands clubs, sont arrivés à Clairefontaine dans des états de forme disparates. La préparation physique pour cet Euro a été intense. Dès le deuxième match, disputé sous une chaleur accablante à Budapest, on a senti des lacunes physiques inquiétantes qui n'ont jamais été comblées, reconnaît le capitaine Hugo Lloris.
On finit sur les rotules. Le contexte, la situation, les 15 jours qui ont été éprouvants sous le soleil, sous la chaleur, il y a eu des blessures. On a gagné des batailles sur les 3 premiers matchs. On y a laissé de l'énergie aussi.
Des faiblesses physiques symbolisées par de nombreuses blessures. Dembélé, Digne, Hernandez, Lemar, Thuram, Coman, Benzema. Les Bleus terminent cette compétition en pièces détachées. Ajoutez la bulle sanitaire qui les a vus vivre isolés du monde pendant plus de 30 jours, ce que certains ont mal vécu, une ambiance parfois pesante, et vous obtenez les ingrédients principaux d'un échec passif. Imprévisible, malgré le statut de favori. On ne mérite pas mieux, a admis Didier Deschamps, avant de quitter l'arène de Bucarest, dépité.
Jean-François Pérez pour Europe 1. La Suisse affrontera l'Espagne en quart de finale. Aujourd'hui, la suite des huitièmes avec 2 affiches. Angleterre-Allemagne à 18h et Suède-Ukraine à 21h.
À 6h34 sur Europe 1. C'est une information que le journal Les Echos a révélée hier. L'Élysée planche sur une réforme des retraites adoptée dès cet automne.
Avec l'âge de départ en retraite porté à 64 ans. C'est un pari politique, hein, celui de montrer que la transformation est à l'œuvre jusqu'au bout, mais avec le risque de braquer une partie de l'électorat. D'ailleurs, les partenaires sociaux sont plus que réticents, Olivier Samin.
Tous contre cette idée, aussi bien les syndicats que le patronat, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les syndicats, un relèvement de l'âge de la retraite serait une mesure à la fois désastreuse, injuste et politiquement ravageuse. Des chocs, on en a déjà assez pris comme ça ces derniers temps, dit l'un d'eux. Choc sanitaire, choc économique, choc moral. Pas la peine d'en ajouter un autre. Et les syndicats l'assurent, engager une telle réforme à l'automne en misant sur l'effet de sidération à quelques mois de la présidentielle, ça ne marchera pas. Les Français redescendront dans la rue. Le patronat, lui, s'oppose à ce projet, non pas sur le fond. Il défend depuis longtemps un report de l'âge de départ à la retraite, mesure qui permettra d'économiser beaucoup d'argent très vite. Mais il considère qu'une telle réforme ne doit pas être lancée à la va-vite à 6 mois de l'élection présidentielle. Les enjeux sont trop importants, dit-il. Ce doit être un choix de société débattu dans la campagne électorale qui s'annonce. Mener la réforme à la hussarde, c'est prendre le risque de la rater et de ne plus rien pouvoir faire avant longtemps.
Merci Olivier Samin. Restons sur la politique avec les suites immédiates des régionales. C'est l'heure des comptes entre socialistes et écologistes, souvent alliés, notamment au second tour, mais qui se penchent maintenant sur la suite 2022. Claudia Bertram.
Changement de ton du patron du PS. Olivier Faure, chantre du rassemblement avec les écologistes depuis des mois, quitte à faire grincer des dents au sein de sa propre famille politique. Mais depuis les résultats des régionales, le premier secrétaire du Parti Socialiste joue clairement le rapport de force. Il évoque un plafond de verre pour les écologistes lorsqu'ils mènent l'Union. Un plafond vert, dit-il pour le jeu de mots. Olivier Faure estime que les socialistes sont les plus crédibles pour conduire les rassemblements. De quoi jeter un froid avec les écologistes. Les résultats ne permettent pas de trancher la question du leadership à gauche, estime amer un cadre de ELV. Au sein du parti, on pointe la prime aux sortants dont ont bénéficié les candidats socialistes. Les Verts, eux, n'ont remporté aucune région. On pouvait espérer mieux, mais ce n'est pas un échec. On multiplie le nombre de nos élus, relativise un membre du bureau exécutif. Certains écologistes voient aussi dans les propos d'Olivier Faure une façon de vouloir se renforcer en interne avant le congrès du PS prévu à la rentrée.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. C'est un procès que nous suivons depuis le début, celui de l'affaire Troadec, les meurtres de 4 membres d'une même famille à Orvault, près de Nantes, en 2017.
L'accusé Hubert Caouissin a livré hier le récit des faits. Sa compagne de l'époque, Lydie Troadec, a été interrogée pour savoir plus précisément quel a été son rôle à elle après les meurtres. A-t-elle contribué au recel de cadavres et à la modification de la scène de crime ? Récit d'audience de Charles Guyard.
Devant la cour, il est bavard mais imprécis. Elle est plus réservée, moins spontanée. Hubert Caouissin et Lydie Troilec se retranchent toutefois derrière les mêmes répliques lorsque des contradictions sont soulevées, usant et abusant des « je ne me souviens pas, j'étais fatigué » ou « mes propos ont été déformés ». Dans son récit à lui, les faits sont plutôt simples. Après avoir été surpris par les Troilec, il s'est défendu et a tué par accident. De son côté, elle assure avoir agi sans réfléchir lorsqu'il lui demande d'aller acheter de grands sacs poubelles, de jeter l'arme du crime depuis un pont ou d'aller se promener avec leur fils pendant que lui enterre les corps, alors qu'en réalité dans la ferme, il découpe et brûle. Elle ne sent rien, ne se doute de rien et surtout croit tout. J'écoutais ce qu'il disait, je faisais les choses. Est-elle rentrée dans la maison d'Orvault pour aider au nettoyage? Non, non, répète-t-elle, assurant être restée plus de 4 heures à l'attendre dans la voiture de nuit par 5 degrés. Olivier Pacheux, avocat des parties civiles, est sceptique.
Je pense qu'il a agi seul. Par contre, quant au rôle de Lydie Troadec, je suis persuadé qu'elle est rentrée dans cette maison à un moment, au minima, après la mort de sa famille.
Une version partagée par les experts en médecine légale pour qui la manipulation par une seule personne de 4 corps atteints de rigidité apparaît peu crédible. Ils sont attendus aujourd'hui à l'audience. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et puis dans l'actualité sportive, il n'y a pas que le football. Le Tour de France doit encore nous faire vibrer, lui, avec aujourd'hui cette 4e étape, 150 km entre Redon et Fougères. Nous sommes en Ille-et-Vilaine. Mathieu Van Der Poel, toujours maillot jaune. Le journal du Tour, c'est sur Europe 1 dans une demi-heure à 7h10.
Le journal signé François Geffrier, il est 6h39 sur Europe 1.
Europe 1.
Et direction le Canada dans quelques secondes pour tenter de comprendre ce phénomène sans précédent dans l'ouest du pays. Tous les records de chaleur sont battus, plus de 47 degrés enregistrés ces derniers jours près de Vancouver. Plusieurs régions en alerte, on est y compris proche de l'Arctique. Alors on va tenter de comprendre avec mon invité qui est en ligne depuis Toronto avec nous, le climatologue David Phillips. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h41 et je suis donc en ligne depuis le Canada avec David Phillips. Bonjour, hello, good morning.
Good morning Sebastian, nice to be with you.
Merci David Phillips, merci d'être avec nous depuis la région de Toronto. Vous êtes climatologue, vous êtes aussi porte-parole au ministère qui est en charge du climat et de l'environnement au Canada. Votre pays subit sur la côte ouest autour de Vancouver une vague de chaleur spectaculaire. On a dépassé même les 47 degrés hier. Est-ce sans précédent en cette période de l'année?
Oui, c'est très tôt dans l'année. C'est du jamais vu. Il faut revenir à 1937 pour trouver des températures similaires. À l'époque, autour de 45 degrés. Et je ne pensais vraiment pas que ce record serait battu de mon vivant. Je veux dire, nous sommes le deuxième pays le plus froid au monde, celui où il neige le plus. On peut vous donner du refroidissement éolien brutal, de sacrées gelures ou même des vortex polaires. Mais franchement, on ne fait pas souvent la une avec les fortes chaleurs au Canada. Mais dimanche, on a atteint donc les 46,6 degrés. C'est temps d'en perdre la tête. D'autant que ce nouveau record pourrait tomber dans les jours qui viennent. C'est complètement fou, tout le monde ne parle que de ça.
Ouais,
46 dimanche, 47 même ces dernières heures. Il fait plus chaud là au Canada qu'à Dubaï en plein désert. Quand on voit ça, David Phillips, on se dit que ça ne peut pas être normal.
Ce n'est pas normal, on ne veut pas de ces records de chaleur, mais Sébastien, c'est facile à comprendre ce qu'il se passe. C'est ce qu'on appelle une zone à haute pression. C'est comme un dôme, un couvercle qu'on aurait posé sur une partie du monde, du cercle de l'Arctique jusqu'au désert du Sud-Est aux États-Unis. Un gros morceau de carte qui inclut le comté de Washington dans l'Oregon, la Colombie-Britannique, l'Alberta et même le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Et ce qu'il se passe sous ce dôme, Sébastien, c'est que l'air est comprimé. C'est une bulle dont l'air est attiré des hauteurs vers le sol. En quelque sorte, l'air est pressé. Ces molécules s'entrechoquent et ça crée de la chaleur. Sauf que la chaleur n'a nulle part où aller, elle est piégée dans la bulle. C'est ce qui fait monter les températures. Mais il y a autre chose à ajouter, Sébastien. Parfois, il y a de la pluie ou de l'humidité au sol et l'énergie solaire va créer une sorte d'évaporation. Mais cette fois, l'air est si sec que toute l'énergie solaire fait monter aussi fortement le thermomètre.
and not to evaporate the water.
C'est une chaleur sèche de jour comme de nuit, et c'est dur d'y échapper. Même près de l'océan, il fait extrêmement chaud.
David Phillips, est-ce que vous, comme climatologue, comme scientifique, vous faites un lien entre ce phénomène qui est observé aujourd'hui et notre impact sur l'environnement ? Est-ce que nous, les humains, on est responsables de ce qui se passe ?
C'est une excellente question. Pour y répondre, je vais essayer d'être juste et équilibré. Le changement climatique ne crée pas de vagues de chaleur. Il ne crée pas de tornades ni de feux de forêt. Ce qu'il fait, c'est qu'il aggrave tout. Il rend tout pire, plus gros, plus grave. Oui, nos grands-parents ont connu une vague de chaleur similaire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est pire parce que c'est plus tôt dans l'année, plus intense. Donc je pense que l'homme a une part de responsabilité. Ça ne vient pas uniquement de l'industrie. Il y a d'autres raisons. Mais nous sommes en partie responsables. C'est comme si on donnait des stéroïdes à la météo. On rend tout plus intense. Pour moi, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'un effet humain sur cette vague de chaleur.
Quel impact peut avoir ce record de chaleur ? On voit que certaines régions proches de l'Arctique sont touchées. Quelles conséquences cela peut avoir sur la banquise, par exemple ?
C'est intéressant ce que vous dites, parce que, vous savez, il y a des gens dans le sud du Canada et aux États-Unis qui se disent « c'est juste l'Arctique, on s'en fiche ». Non, ce n'est pas le cas. C'est le réfrigérateur du monde et la glace y disparaît, ce qui fait monter le niveau des océans. La glace subit la chaleur au lieu de la refléter. Et ça change le climat. Donc ce n'est pas quelque chose d'insignifiant dans le Grand Nord. C'est un sujet mondial. On est tous concernés.
Un sujet mondial, vous dites, David Phillips, ça veut dire que cela peut avoir des conséquences jusqu'ici, jusqu'en Europe ?
Tout est connecté. Je pense que ça peut avoir un effet profond. La fonte des glaces au pôle Nord peut engendrer des inondations, des canicules et même des périodes de grand froid. C'est ironique, mais c'est l'une des conséquences. On voit de plus en plus de ces extrêmes, ces climats inhabituels à l'échelle mondiale. Tout est lié.
Que disent les prévisions aujourd'hui, David Phillips, chez vous au Canada ? Est-ce que cette canicule va encore durer ?
Normalement, les températures devraient baisser un petit peu cette semaine. Ce week-end, cette vague de chaleur devrait se déplacer vers l'est et peut-être que ça va s'arrêter. Mais toutes nos études, comme celles faites en Europe ou aux États-Unis, montrent que ce n'est que le début. Ça va être un été plus chaud que la normale en Amérique du Nord et notamment dans tout le sud du Canada. Un été étouffant. Il va falloir s'y habituer. Peut-être pas aussi chaud qu'en ce moment, mais plus que la normale.
Et d'ailleurs, vous avez émis plusieurs alertes concernant un certain nombre de régions. Les populations sont en danger aujourd'hui ?
Oui, elles le sont. Et ce qui est important de comprendre, Sébastien, c'est qu'on a des climatiseurs dans l'est du Canada, mais pas à l'ouest, du côté de l'Oregon et de l'État de Washington. En tout cas, très peu de personnes en ont. D'autant que l'architecture des immeubles n'est pas censée repousser la chaleur. Au contraire, les immeubles sont faits pour garder la chaleur parce qu'il fait habituellement beaucoup plus frais. Donc, il va y avoir des effets très importants sur les poissons notamment. Les poissons meurent dans les rivières parce qu'ils ne supportent pas ces températures très élevées. Il y a moins d'oxygène dans l'eau. Et je crois que ce qui va arriver après, ce seront des feux de forêt parce que le sol devient de plus en plus sec.
Europe 1, Sébastien Krebs.
7h10, bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour, c'est la première autoroute conçue pour les voitures autonome. Elle va ouvrir au trafic cette semaine en Chine. Alors, on va peut-être expliquer comment ça fonctionne. Dès qu'une voiture y entre, elle est guidée, prise en charge Va être comme les wagons d'un train, en fait.
Oui, oui, ce sera aussi la première autoroute garantie sans bouchon, parce que la chaussée a été bourrée de capteurs qui vont discuter avec l'ordinateur de bord de chaque voiture qui circule et ajuster la vitesse, le freinage, les distances de sécurité pour que la circulation reste fluide en toutes circonstances. Donc, on va pouvoir lâcher le volant, lire son journal ou faire une petite sieste. Vous l'avez dit, hein, ce sera comme dans les films de science-fiction où la voiture s'insère dans une sorte de petit train dès qu'elle entre sur l'autoroute.
Mais j'imagine que ce sera réservé donc aux voitures autonomes uniquement ?
Non, pas forcément. Il faut juste que sa voiture soit capable d'ajuster sa vitesse à celle de la voiture qui est devant. Donc un simple régulateur de vitesse adaptatif suffit. Et bien sûr que la voiture puisse communiquer avec la route pour recevoir les informations. Sinon, on est prié de rester sur une voie spéciale voiture non connectée. L'avantage en Chine, c'est que la plupart des véhicules sont récents et que le gouvernement fait le forcing en ce moment pour que 50% des voitures vendues en 2025 soient dotées d'un minimum d'automatisation et de connexion. L'objectif étant, encore une fois, là, d'en finir avec des interminables bouchons.
Ce sont des choses qu'on pourrait voir arriver en Europe ?
Oui, parce qu'en Europe aussi, on fait le forcing pour adopter ces technologies. Mais là, l'objectif, c'est plutôt de réduire le nombre d'accidents. Ça a commencé avec les boîtes noires qui seront obligatoires dès l'année prochaine. Et bien, bientôt, la voiture pourra aussi dialoguer avec les feux, avec la route, avec les panneaux pour être prévenue d'un accident, d'intempérie ou tout simplement d'un trou dans la chaussée.
Et donc, aller sur cette autoroute du futur où on lâche le volant et on peut regarder une petite série
pour et lire un livre. De l'équipe de France.
Voilà. Quelle horreur. Anissa Mbida pour l'innovation du jour, 6h52. Et nous ouvrons notre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 sur tous les continents. Nous partons d'abord en Pologne ce matin. Bonjour Marie Le Pulloc.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce qui fait la une ce matin à Varsovie ?
Eh bien, ce sont les chiffres donnés hier par l'épiscopat polonais sur les agressions sexuelles dans l'église, des chiffres qui montrent que le nombre de plaintes est en forte augmentation, note le site RFM24, de juillet 2018 à fin 2020, plus de 350 cas d'agressions sexuelles ont été signalés à l'église, soit quasiment autant que pendant les 28 dernières années, rappelle RFM24, nous présentons nos excuses pour ces péchés, a déclaré l'épiscopat. Dire « je suis désolé » n'est pas suffisant, réagit de son côté l'avocat de plusieurs victimes dans Gazeta Wyborcza, car l'épiscopat a refusé de livrer des informations sur des cas d'abus à la Commission d'État de lutte contre la pédophilie. Une église polonaise sous la pression de Rome, selon le site Not From Poland, le Vatican a annoncé enquêter sur des accusations de négligence d'un cardinal polonais, ancien secrétaire du pape Jean-Paul II, dans la lutte contre les abus sexuels.
Marie Le Pulloc à Varsovie, merci à vous. Direction la Chine maintenant. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour.
Que lisez-vous ce matin dans la presse à Pékin ?
À la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, la mise en service spectaculaire du deuxième plus grand barrage du monde, après celui des Trois Gorges, qui se trouve aussi en Chine. Il s'agit cette fois d'une centrale hydroélectrique de 289 mètres de hauteur, soit un peu moins que la Tour Eiffel, construite sur les contreforts de l'Himalaya. Alors la presse chinoise évidemment salue l'exploit. L'agence Chine Nouvelle, reprise par tous les journaux, explique que ce barrage pourra produire assez d'électricité pour alimenter 500 000 personnes. Le Global Times explique que c'est une nouvelle étape pour réduire la consommation de charbon dans le pays et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Mais l'édifice pose aussi beaucoup de questions, soulevées surtout par les réseaux sociaux. Certains parlent d'une bombe à eau à retardement et des risques d'inondation. 100 000 personnes ont dû être expulsées de la zone, mais relogées, assurent les journaux. Un autre barrage trois fois plus puissant est en projet au Tibet, explique le magazine Caixin.
Sébastien Lebelzik à Pékin, merci à vous. Nous terminons notre tour du monde aujourd'hui aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les gros titres à New York ?
Eh bien, c'est la décision d'un juge fédéral. Il a rejeté les poursuites engagées par l'autorité américaine de la concurrence contre Facebook, explique le New York Times. Ce magistrat a estimé que les procureurs n'ont pas fourni suffisamment de preuves pour affirmer que l'entreprise détient un monopole sur les réseaux sociaux. Le même juge a également rejeté une plainte formulée par des dizaines d'États américains sur les achats d'Instagram et de WhatsApp par Facebook, souligne CNN, car les plaintes ont été déposées trop tard, plusieurs années après les acquisitions en question. Le Washington Post parle d'une victoire majeure pour Facebook dans sa bataille contre le gouvernement et d'un coup retentissant porté aux efforts des autorités pour réduire le pouvoir des géants de la tech. Cela met en évidence les difficultés qu'ont les régulateurs à contrôler ces grandes entreprises. Le cours des actions de Facebook s'est d'ailleurs envolé de 4,2%. Hier, relève le Wall Street Journal, pour la première fois de son histoire, la capitalisation de l'entreprise a même dépassé les 1 000 milliards de dollars.
Alexis Guilleux depuis New York pour Europe 1. Il est 7h05 sur Europe 1. Mathieu Béliard s'installe pour le 7-9. On va retourner à Bucarest dès le début du journal de 7h. Retrouver Cyril de la Morinerie, c'est lui qui vous a fait vivre cette défaite des Bleus hier soir. Retour sur cet échec dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 6h58 sur Europe 1. Très belle journée à vous. À demain avec toute l'équipe du 5-7. Et vous retrouvez tout de suite Mathieu Béliard en pleine forme et très bonne humeur ce matin.
Oui, bonjour, toujours, comme Béliard. Vous tous, comme vous toutes et tous, je le sais bien. Bonjour Sébastien et merci d'avoir réveillé nos auditeurs depuis 5h ce matin, ceux qui ont réussi à dormir. Mardi 29 juin 2021, le monde a changé, on va vous le raconter. Alors je sais que, oui, je sais qu'on se fait du mal, mais écoutez Cyril de la Morinerie, les toutes dernières secondes du match France-Suisse hier soir.
Il faut marquer Kylian. Allez, c'est parti. Et c'est l'arrêt, c'est fini. C'est fini. La France est éliminée.
Les Bleus stoppés net, surpris par les Suisses. Un match fou, 3-3 à la fin du temps réglementaire. Prolongation, tir au but. Et les champions du monde sortis de l'Euro dès les huitièmes de finale. Le récit du match, l'analyse à chaud, les perspectives aussi ce matin pour l'équipe de France. Vous entendrez Didier Deschamps, Kylian Mbappé, qu'il ne faut pas accabler pour Virginie Fulpin. C'est l'édito sport à 7h20. Le service des sports mobilisé en direct ce matin. Tiens, nous sommes également à Genève, où certains sont probablement encore en train de faire la fête au moment où je vous parle. Du sport toujours avec le Tour de France. Et nous allons revenir sur ces chutes massives à répétition, un début de tour assez violent pour les coureurs, dangereux même. Des voix s'élèvent contre le tracé des étapes. Le journal du Tour, c'est juste après le journal de 7h. Très bon réveil à toutes et à tous, 6h59. Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bah, j'ai le sourire parce que je sens que je vais ajouter un brin d'amertume à tous ceux qui nous écoutent. On n'a pas besoin de ça, leur dire que c'est une journée d'averse, d'orage, etc. Bon, on est dans une mauvaise passe, mais après ça va revenir, hein. Rassurez-vous chers amis. Donc nous avons une journée qui sera un peu difficile, c'est vrai. Pour l'instant ça se passe bien, nous avons une petite zone de pluie qui grimpe, qui est en ce moment sur le massif central, qui est elle franchit la Loire, là où nous parlons, elle est sur la Loire, elle remonte vers Paris et nous allons avoir dans le courant de la journée des averses quasi généralisées, excepté sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Béarn, excepté sur le bassin méditerranéen, mais aussi sur les Cévennes, sur les Alpes, dans leur ensemble d'ailleurs, sur le massif alpin. Bon, voilà, c'est quelques exceptions près, ce sera un temps d'averses, d'éclaircies, hein. Ah, l'éclaircie, ça c'est symbolique. L'air d'éclaircies et malheureusement d'orages qui seront dangereux, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Les températures maximales entre 18 et 31 degrés, 18 à Cherbourg, 19 à La Rochelle, Nevers et Limoges, à Paris, Belfort, Clermont-Ferrand, Brest et Deauville, 20, 21 à Dijon, Bordeaux, Lille et Nantes. Si vous habitez Nancy, Sedan, Toulouse, Colmar, entre 22 et 23. Si vous êtes Lyonnais, 26. Et Marseille, 30 degrés, c'est là qu'il fera le plus chaud, avec Nice, 31. Voilà pour une journée. Ah, ça ira mieux, tenez, à partir de vendredi. Oui, ce jeudi ça se calme, mais vendredi ça sera pas mal.
Merci.
Mais beaucoup. Le week-end,
ouais, voilà. Retenez le vendredi. Merci Laurent Cabrol.
Gardez le sourire.
Très bon, toujours. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.